Bonsoir à toutes et à tous. Il est donc 20h et vous écoutez France Culture en direct, en public, de la cour du musée Calvet au Festival d'Avignon. La lecture que nous vous proposons ce soir fait écho à la programmation de la 72e édition du Festival d'Avignon. Face à Sénèque, mise en scène par Thomas Joly, et à la question du genre qui court à travers toute la programmation d'Olivier Py, nous vous proposons ce soir Ovide et ses métamorphoses. Il y a quelques semaines, l'essayiste Marielle Massé publié dans Le Monde un article intitulé « Ovide en mai, à Sivens, à Lampedusa ». En voici un extrait. Année 2018, les 50 ans de mai 68 et les 2000 ans d'Ovide. Les métamorphoses sont le grand poème d'un monde jamais arrêté, toujours neuf, peuplé d'êtres mobiles et changeants, pris dans une course infinie, animé de désirs et d'audace immense. « À mes yeux, écrit-elle, cet anniversaire éclaire l'autre, le ravive et l'intensifie ». Les correspondances politiques et poétiques établies par Marielle Massé nous invitent à écouter les métamorphoses comme un texte d'aujourd'hui, malgré son âge vénérable, et à le découvrir ici et maintenant, au cœur d'un festival qui n'a pas du tout commémoré mai 68, ni même juillet 68, et la crise qui secoua le public et les artistes. De juillet 68, on se souviendra longtemps du face-à-face entre Jean Vilar et Julianne Beck, mais aussi de cette exultation des corps et des esprits qui emportait la jeunesse en assistant à Paradise Now. C'est ce même chant du désir qui a enchanté Marielle Massé dans les métamorphoses d'Ovide. Et parce que ces fables rassemblent dans un grand geste poétique le masculin et le féminin, hommes et divinités, humains et non-humains, bêtes et hommes, fleuves et pierres, nous les avons confiés à un groupe de très jeunes gens, élèves acteurs de la 78e promotion Jean-François Sivadier de l'ENSAT, qui travaillent avec nous ici au musée Calvet depuis le 14 juillet. Dirigés et mis en scène par la réalisatrice Sophie Haute-Picon, ils vont vous guider, avec leur jeunesse, dans la forêt de tous ces mondes possibles, écrits, décrits par Ovide et magnifiquement traduits du latin par Marie Cosnet, dont je salue l'œuvre de traduction qui durera 10 ans. Tout de suite, en direct du musée Calvet.
Narcisse et Écho. Dans les villes d'Aonie, Tirésias avait grande réputation et répondait sans faille au peuple qui l'interrogeait. La première à éprouver sa parole de vérité, c'est la bleue Lyriopée que le Céphise dans son bras incurvé autrefois enfermait et que, prisonnière dans ses eaux, il a violée. Elle fait sortir de son ventre la belle, la nymphe, un enfant à aimer. Elle l'appelle Narcisse. Elle consulte Tirésias. Est-ce qu'il verra le longtemps d'une vieillesse mûre, le devin, implacable, s'il ne se connaît pas ? Longtemps, le mot du prophète apparut vain. La fin, le fait, son genre de mort, folie nouvelle, lui donne raison. À ses 15 années, le fils de Céphise en a ajouté une, et il semble et enfant et jeune homme. Bien des jeunes hommes, bien des jeunes filles le désirent, mais il y a dans sa douce beauté un si dur orgueil qu'aucun jeune homme, aucune jeune fille ne l'émeut.
Elle l'aperçoit, qui presse les cerfs frissonnants dans ses filets, la nymphe de la voix, celle qui ne sait se taire quand on parle, ni parler la première, celle qui répète les sons. Écho. Écho, alors, était corps et non voix. Pourtant, sa gorge ne faisait pas un autre usage de la parole qu'aujourd'hui. Elle pouvait répéter d'une foule de mots les tout derniers. C'est Junon qui lui a fait ça. Parce que quand elle surprenait les nymphes couchées sous Jupiter en haut de la montagne, Écho la maligne tenait de longs discours à la déesse et les nymphes fuyaient.
Quand la fille de Saturne a compris
« De cette langue qui m'a trompée, il sera tout petit, le pouvoir. Tu feras un minuscule usage de ta voix. »
Elle confirme ses menaces par le fait. À la fin d'un discours, Écho double les paroles, rapporte les mots entendus. Narcisse erre par les campagnes isolées. Écho le voit, s'échauffe, suit ses traces en cachette. Plus elle le suit, plus elle chauffe d'un feu plus proche. Combien de fois elle veut venir à lui avec des paroles tendres et lui faire de douces prières. Sa nature refuse. Elle ne peut pas commencer. Ce qu'elle peut faire, elle s'y prête. Guetter les sons, renvoyer les mots.
L'enfant, loin de sa fidèle troupe de compagnons, dit
«
Qui est là ?
Là ?
Répond Echo. Stupéfié, il regarde dans tous les coins. Il appelle. Viens !
Viens !
Un appel répond à l'appel. Il se retourne, personne ne vient. Pourquoi, dit-il, me fuis-tu ? Ces mots qu'il dit, il les reçoit. Trompé par l'image de la voix qui répond, il dit « Ici, réunissons-nous. »
Et à rien, jamais, avec plus de plaisir, Echo qui répète n'a répondu « Unissons-nous. » Elle est bien d'accord. Elle sort de la forêt, va pour jeter ses bras autour du cou désiré.
Il fuit, et fuyant, « Sors tes mains de là. Je mourrai, dit-il, avant d'être à toi. »
Elle ne répète plus rien, sauf « Être à toi. »
Méprisée, elle se cache dans les forêts, couvre sous les feuilles son visage honteux, vit dans des grottes de solitude. Son amour est bien accroché, il grandit de la douleur du refus. Les soucis la tiennent éveillée, mincissent le pauvre corps, la maigreur fripe la peau et dans les airs, le suc du corps va tout entier. Juste une voix, juste restent les os. La voix demeure. Les os, dit-on, prennent figure de roche. Depuis, elle se cache dans les forêts, on ne la voit plus sur la montagne. Tout le monde l'entend. Elle est le son. Il vit en elle. Comme avec elle, Narcisse s'était amusé avec d'autres nymphes, nées des eaux ou des montagnes, et avec des jeunes hommes. Un de ceux qui l'a méprisé lève les mains vers le ciel. Qu'il soit amoureux lui aussi, sans posséder l'aimé. La déesse de Ramnonte acquiesce à cette prière juste. Il y avait une source limpide, d'argent, aux eaux brillantes. Il y avait du gazon autour que l'eau tout près nourrissait, et une forêt qui ne laissait entrer aucun soleil.
Ici, l'enfant, fatigué de la chasse et de la chaleur, s'allonge, conduit par la beauté du lieu et par la source. Il veut apaiser sa soif. Une autre soif grandit. Il boit et, saisi par l'image de la beauté vue, aime un espoir sans corps. Il croit que c'est un corps, c'est de l'eau. Il est stupéfié, immobile, à son visage, il s'accroche. Il admire tout ce qui le rend admirable. Il désire et il est désiré, et il allume et il brûle à la fois. Combien de fois donne-t-il des baisers vains à la source menteuse ? Au milieu de ses eaux, combien de fois plonge-t-il les bras ? Pour prendre le coup qu'il a vu, il n'attrape rien. Que voit-il ? Il ne sait, mais ce qu'il voit le consume. C'est la même erreur qui abuse et qui excite ses yeux. Ni le souci de Cérès, ni le souci du repos ne l'arrache d'ici. Écrasé sur l'herbe épaisse, il regarde d'un œil insatiable la forme mensongère. De ses propres yeux, il meurt. Il se redresse un peu et tend les bras vers les forêts alentour. Y a-t-il quelqu'un, ô forêt, qui a aimé plus cruellement ? Vous le savez, vous êtes souvent une bonne cachette. Vous avez passé tant de siècles de vie. Quelqu'un s'est-il desséché comme moi dans le vieux temps ? Vous en souvenez-vous ? Il me plaît, je le vois. Mais ce que je vois qui me plaît, je ne le trouve pas. Si grande l'erreur qui tient l'amant. J'ai si mal. Une mer immense ne nous sépare pas. Ni une route, ni des montagnes, ni des remparts aux portes closes. Une petite eau nous empêche. Lui, il désire qu'on l'attrape. Chaque fois que je plonge mes baisers vers les liqueurs limpides, chaque fois il se courbe, bouche renversée, vers moi. On dirait qu'on peut toucher. C'est tout petit ce qui sépare les amants. Qui que tu sois, sors. Viens. Pourquoi, enfant incroyable, me trompes-tu ? Je ne sais quel espoir tu me promets avec ton visage ami. Lorsque je tends vers toi les bras, tu les tends aussi. Lorsque je ris, tu ris aussi. Tes larmes aussi ? Je les ai remarquées. Souvent quand je pleure, toi, c'est moi. J'ai compris. Mon image ne me trompe pas. Je brûle d'amour de moi. Je fais, je suis la flamme. Alors quoi ? Être supplié ou supplié ? Supplié de quoi ? Ce que je désire, je l'ai. Ce que j'aime rend pauvre. Oh, si je pouvais me séparer de mon corps. Veux nouveau chez un amant. Je voudrais que ce que j'aime s'éloigne. Déjà, la douleur m'ôte les forces et je n'ai plus grand temps de vie et je m'éteins dans le premier âge. La mort ne m'est pas lourde. Durant la mort, je vais quitter mes douleurs. Lui, L'aimer, je voudrais qu'il dure longtemps. Mais nous deux, ensemble, en un souffle, nous allons mourir. Il dit.
Il revient au visage, le sien, complètement fou. Il trouble de larmes les eaux. Dans le bassin remué, la forme est floue. Il la voit s'éloigner et...
Où fuis-tu ? Reste cruel, ne me quitte pas. Je t'aime, crie-t-il. Laisse-moi regarder ce qu'on ne peut toucher. Laisse-moi nourrir ma triste fureur.
Il se plaint, retire par le haut son habit et frappe sa poitrine nue de ses mains de marbre. La poitrine frappée devient rouge-rose. On dirait une pomme, blanche d'un côté, rouge de l'autre, ou du raisin, aux grappes changeantes qui devient pourpre quand il mûrit. Il n'a plus cette vigueur, ni ses forces, ni tout ce qu'il admirait. Plus ce corps qu'autrefois aimait Écho.
Elle le voit. En colère, elle n'a pas oublié, mais elle le plaint. Et chaque fois que le pauvre enfant dit
« Hélas !»
de sa voix qui répète, elle dit « Hélas !» Il dit
« Adieu !»
« Adieu !» dit Écho.
Il laisse tomber sa tête fatiguée dans l'herbe verte. La mort ferme les yeux qui admiraient la beauté de leur maître. À la place du corps, on trouve une fleur, safran, avec des feuilles blanches tout autour du cœur.
Pyram et Thisbé.
Pyram et Thisbé, l'un très beau jeune homme, l'autre la plus aimée des filles d'Orient, habitaient des maisons qui se touchaient. Ce voisinage a permis la rencontre. C'est un premier pas. Avec le temps, l'amour a grandi. Les torches du mariage les auraient réunis, mais les parents empêchaient. Ce qu'ils ne pouvaient empêcher, qu'ils se consument de la même façon, esprits malades tous les deux. Plus il est caché, plus il brûle, le feu caché. Était fendu d'une légère entaille, faite autrefois quand on le construisit, le mur commun à la maison de l'un et de l'autre. Ce défaut, personne, par les longs siècles, ne l'avait remarqué. Mais que ne sent pas l'amour ? Les premiers, vous l'avez vu. Amants, vous en avez fait un chemin de voix. Tranquillement, par là, dans un tout petit murmure, vos caresses passaient. Souvent, ils s'installaient. Ici Thisbé et là Pyram. Chacun attrapait le souffle de la bouche de l'autre et...
Jaloux.
Mûr jaloux.
Disait-il.
Pourquoi fais-tu obstacle aux amants ?
Tu ferais mieux de permettre de nous joindre de tout corps.
Ou...
Si c'est trop...
Au moins...
De t'ouvrir pour qu'on se donne des baisers.
Nous ne sommes pas ingrats.
Nous le reconnaissons.
Nous te devons ce qui nous est donné.
Le passage des mots dans les oreilles aimées.
Ils parlaient, à leur place, ainsi chacun pour soi et en vain. Sous la nuit... Ils se disaient au revoir. Chacun donnait de son côté des baisers qui ne parvenaient pas à l'autre en face. Après que l'aurore a écarté ses feux de nuit et que le soleil a séché de ses rayons les herbes arrosées, comme d'habitude, ils se retrouvent là. Alors, dans un petit murmure, après beaucoup de plaintes, ils décident que dans la nuit silencieuse, ils vont tenter de tromper leur gardien et de franchir les portes. Quand ils seront sortis de la maison, ils laisseront la ville. Pour ne pas errer en vagabond dans un trop vaste espace, ils se retrouveront auprès du tombeau de Ninus, se cacheront à l'ombre d'un très haut mûrier, tout proche d'une fraîche fontaine. Leur projet est au point. Le jour est lent à descendre, ils se jettent dans les eaux, des eaux la nuit surgit.
Espiègle ! À travers les ténèbres, la porte ouverte, Thisbé sort, trompe les siens, visage couvert, elle parvient au tombeau, s'assied sous l'arbre qu'on a dit. Voici qu'arrive une lionne, gueule trempée, bavant un récent carnage de bœuf. Elle vient étancher sa soif dans l'eau de la fontaine voisine. De loin, sous les rayons de la lune, Thisbé de Babylone, la voit et, dans la grotte obscure d'un pied timide, fuit. Elle fuit et laisse derrière elle tomber son voile.
La lionne sauvage a bien bu, a épuisé sa soif, et quand elle retourne aux forêts, tombe par hasard sur cette légère étoffe qu'à gueule sanglante elle lacère.
Il est sorti plus tard. Il voit des traces dans la haute poussière de bêtes fauves, c'est sûr. Il devient blanc de visage, Pyram. Et puis c'est le vêtement teint de sang qu'il repère. Qu'une nuit, dit-il, père de deux amants. Elle était la plus digne d'une longue vie. Mon cœur l'a perdue. Je t'ai fait mourir, malheureuse. Dans ces lieux pleins d'effroi, je t'ai ordonné de venir la nuit, et je ne suis pas venue avant. Mon corps, déchiquetez-le, mes viscères de meurtrier, détruisez-le d'une morsure cruelle, ô vous qui habitez sous ce rocher, lion.
Le voile de Thisbé, il le prend, l'apporte à l'ombre de l'arbre des promesses, il donne des larmes, il donne des baisers aux vêtements bien connus.
Maintenant, reçois mon sang, dit-il, bois-le.
Le fer qu'il portait à la ceinture, il le plonge dans ses flancs. Vite, mourant, il le retire de la blessure brûlante. Il tombe à la renverse, au sol. Le sang saute haut, comme quand un tuyau au plomb abîmé se coupe en deux, et par le petit trou strident, gicle de longues eaux qui brisent les airs sous leurs coups. Les petits de l'arbre, sous les éclaboussures, deviennent noirs. Et la racine mouillée de sang, teint de couleur pure, les murs suspendus.
Thisbé a encore peur, mais pour ne pas manquer à son amant, revient. Elle cherche le jeune homme des yeux et du cœur. Elle reconnaît le lieu, la forme de cet arbre qu'elle a vu, mais la couleur des fruits l'étonne. Elle ne bouge pas. Est-ce le même ? Tandis qu'elle hésite, frissonnante, elle voit qui palpite sur le sol un corps. Elle fait un pas en arrière, sa bouche est plus pâle que le buis. Après un moment, elle reconnaît son amour, frappe d'un coup clair ses pauvres bras, arrache ses cheveux, enlace le corps aimé. Elle comble les blessures de larmes, mêle au sang les pleurs et fiche son visage sur le visage gelé. Pyram, crie-t-elle, quel destin t'a enlevé à moi ? Pyram, réponds, c'est ta chérie Thisbé qui t'appelle. Entends et relève ta tête qui tombe.
À ce nom, Thisbé, Pyram redresse ses yeux lourds de mort, il la voit, les referme.
Après, elle reconnaît son voile et voit le fourreau d'ivoire vide d'épée. C'est ta main, dit-elle, c'est l'amour qui t'a perdu, malheureux. Moi aussi j'ai la main forte, moi aussi j'ai de l'amour, il me donnera la force de me frapper. Je te suivrai dans la disparition, on me dira très misérable, cause et compagne de ta mort. Tu ne pouvais m'être arraché que par la mort. Hélas, tu ne pourras plus m'être arraché par la mort. Nous vous demandons tous les deux une chose, ô très malheureux parents, les miens, les siens, que ceux qu'un amour certain a réunis, leur dernière a joint, vous ne refusiez pas de les enterrer dans le même tombeau. Et toi, arbre, de tes feuilles qui ne couvrent plus qu'un seul corps, bientôt tu en couvriras deux. Garde les signes de ce carnage et toujours fais-nous des petits, bien noirs, propres au deuil, mémoire de nos sangs jumeaux.
Elle dit. L'épée pointée sur sa poitrine, elle se couche sur le fer, tiède encore de sang.
My dearest, my fairest, my fairest.
Ses vœux ont touché les dieux, ont touché les parents. La couleur du fruit, quand il est bien mûr, est noir. Et ce qui reste après le bûcher repose ensemble dans l'urne.
Minos et Scylla.
Thank you.
Minos dévaste les rives de l'Élège, exerce ses forces de mars sur la ville d'Alcatoé que Nisus tient, lui qui possède, au milieu de ses honorables cheveux blancs, un resplendissant cheveu pourpre, signe de grand pouvoir. Six fois, les cornes de la lune naissante paraissent. Le sort de la guerre est encore en suspens. Longtemps, entre les deux parties, vole la victoire aux ailes indécises. Voici la tour royale, adossée aux murs harmonieux, où l'enfant de la tonne, dit-on, a posé sa lyre d'or.
Souvent, elle montait ici, la fille de Nisus, regardait d'en haut les combats du terrible Mars. Déjà, à force de guerre, elle connaît les noms des héros. Elle connaît mieux que tous le visage de leur chef, le fils d'Europe, plus qu'il ne faudrait le connaître, Minos. Elle jure qu'il est comme Phébus avec ses flèches. Quand il retire son casque de bronze, met son visage à nu, quand, vêtu de pourpre, il presse le dos de son cheval blanc, à peine elle-même, la fille de Nisus, à peine si elle a toute sa tête.
Elle a une envie folle, si c'est possible, de porter dans l'armée ennemie ses pas. Une envie folle de jeter du haut des tours son corps dans le camp de Gnose, d'ouvrir la porte de bronze à l'ennemi, tout ce que voudra Minos. Elle est assise là, regarde les tentes blanches du roi du dictée.
« Je dois me réjouir, dit-elle, ou m'attrister de cette guerre lamentable ? Je ne sais pas. Je m'attriste que Minos soit mon ennemi. Je l'aime. S'il n'y avait pas eu la guerre, je ne l'aurais pas connu. Il pourrait me prendre et laisser la guerre, m'avoir en otage. Je serais sa compagne, une preuve de paix. Oh, trois fois heureuse si, glissant dans les airs, portée par des ailes, je pouvais me poser dans le camp du roi de Gnose et me révéler, et révéler mes flammes, et lui demander contre quoi il me veut. Mais qu'il ne demande pas le château de mon père, renoncer à celui désiré plutôt que de l'avoir contre une trahison. Mais il est souvent utile d'être vaincu quand le vainqueur est clément. Il mène une guerre juste pour son fils mort. Sa cause le rend fort, les armes qui défendent sa cause aussi. Je le crois, on sera vaincu. Quelle fin pour la ville! Pourquoi son dieu Mars lui ouvrirait les remparts de ma ville et pas mon amour? C'est mieux si, sans massacre, sans retard, sans payer de son sang, il peut gagner. Je sais ce que je veux. Ça y est, j'ai pris ma décision. Offrir ma patrie en dot, mettre fin à la guerre. Et vouloir est peu. Il y a des gardiens aux entrées. Mon père tient les clés des portes. Lui seul, je le crains, pauvre de moi. Lui seul retarde mon désir. Ah, Dieu, si je n'avais pas de père! Chacun est le dieu de soi-même. Le destin se refuse aux prières des lâches. Une autre, enflammée d'un si grand désir, se ferait une joie de perdre ce qui empêche l'amour. Pourquoi une autre serait plus forte que moi? Aller à travers flammes et glaives, j'oserais. Mais je n'ai besoin ni de flammes, ni de glaives. J'ai besoin d'un cheveu, celui de mon père. Cheveux plus précieux que l'or, pourpre de cheveux, tu me feras heureuse. J'aurai ce que je veux.
Elle parle ainsi. La plus grande nourrice des soucis, la nuit, arrive. Dans les ténèbres, l'audace de la fille croît. Voici le premier repos. Le sommeil prend les poitrines épuisées des soucis du jour. En silence, elle entre dans la chambre du père. Et hélas, quel crime! La fille prive son père du cheveu fatal. Elle est en possession du butin de mort. Le porte avec elle. Vite, passe la porte. À travers ennemis, tant elle a confiance en son pouvoir, arrive devant le roi. Elle lui parle. Il est effaré.
L'amour m'a poussée au crime. Je suis la fille du roi Nisus. Je suis Scylla. Je te donne mon pays, mon foyer. Je ne demande rien, sauf toi. Prends la preuve de mon amour. Ce cheveu pourpre, comprends bien, je ne te donne pas un cheveu, mais la tête de mon père.
Sa main offrait le criminel cadeau. Minos se recule devant l'offre, troublé par l'image de ce qu'on n'a jamais vu.
Que les dieux t'écartent, honte du siècle, que dans tout l'univers, la terre et le ciel te renient. Je ne supporterai pas que la Crète, berceau de Jupiter, mon univers, reçoive un tel monstre, il dit.
Très juste. À ses ennemis vaincus, il impose ses lois, puis ordonne qu'on lâche les amarres de sa flotte, que les poupes soient remplies de rameurs. Scylla, quand les bateaux au loin naviguent, quand elle voit que le roi ne récompense pas son crime, prières épuisées, tombe dans une violente colère, tend les mains, folle de rage, cheveux défaits.
Tu t'en vas ! Elle s'exclame. Et mes bienfaits ? Tu m'abandonnes ? Toi que j'ai préféré à mon pays, que j'ai préféré à mon père ! Tu t'en vas où ? Cruelle, ta victoire, c'est mon crime, c'est mon bienfait, les cadeaux donnés, mon amour, tout ça ne t'a pas ému ? Mais mon espoir était en toi. Abandonnée, où vais-je aller ? Dans mon pays ? Il est vaincu, il meurt. Imagine qu'il vive, il m'est fermé pour trahison. Le rivage de mon père, je te l'ai donné. Les citoyens me détestent, je l'ai mérité. Les voisins redoutent mon influence. Je me suis fermée toute terre pour que la crête me soit ouverte. Tu as vaincu grâce à ma faute, et c'est ma faute. Tu ne perds rien pour attendre. Tu oublies en vain mes bienfaits. Je vais te suivre. Je vais embrasser la poupe courbée. Le long des flots, je vais me traîner.
Elle dit, saute dans l'eau, suit les bateaux. Le désir lui donne des forces. Elle s'accroche au bateau de Gnose, compagne odieuse. Son père la voit. Il se balançait dans les airs, transformé en aigle de mer aux ailes fauves. Il va. Elle s'accroche à la poupe ronde. Il va la déchiqueter. De peur, elle lâche la poupe. Une brise légère qui lui évite de toucher les eaux semble la soutenir. Elle est plume, changée en oiseau à plumes. On l'appelle Cirice. À cause du cheveu rasé, elle prend ce nom.
Iphis et Ianté.
Jadis, la terre de Phaestus, voisine du royaume de Gnose, a engendré un inconnu du nom de Lygdus, homme du peuple libre. Pas plus d'argent que de noblesse, mais une vie, une bonne foi, sans reproche. Il prévient sa femme enceinte alors qu'elle est près d'accoucher.
Je fais deux vœux. Que tu sois soulagée à moindre mal et que tu accouches d'un garçon. Un autre destin me coûterait cher, la situation ne le permet pas. Je déteste ça, mais s'il naît de ton accouchement une fille, j'ordonne, ô mon amour, pardonne-moi, qu'elle soit tuée.
Il dit. Il mouille leur visage de larmes abondantes, celui qui ordonne et celle à qui on ordonne.
Jusqu'au bout, Télétuse, de vaines prières, supplie son mari qu'il ne brise pas son espérance.
Lygdus est décidé. À peine déjà peut-elle supporter son ventre lourd du poids mûr, qu'au milieu de la nuit, sous image de rêve, la fille d'Inachus, devant le lit, entourée d'un cortège sacré, se dresse ou semble se dresser. Télétuse est comme arrachée au sommeil, elle voit ça clairement, la déesse lui dit
« Oh Télétuse, ma fille, laisse tes lourds chagrins, trompe les ordres de ton mari, ne doute pas, quand Lucine t'aura délivrée par l'accouchement, élève l'enfant, quoi qu'il soit. Je suis la déesse qui aide. Je porte assistance quand on m'appelle. Ne te plains pas d'honorer une divinité ingrate. » Elle dit et quitte la chambre.
Joyeuse, la crétoise bondit de son lit et vers les étoiles suppliantes lève ses mains pures, prie pour que ce soit vrai ce qu'elle a vu. Elle a ses douleurs. Pousse le poids de son ventre dans les airs. Une fille est née. Le père n'en sait rien.
La mère ordonne qu'on la nourrisse. Elle dit que c'est un garçon. On la croit. À part la nourrice, personne ne sait le mensonge.
Le père tient ses promesses. Il lui donne le nom de grand-père, Iphis.
La mère se réjouit du nom qui est double. Avec ce nom, elle ne trompe personne. Les mensonges restent cachés par cette juste ruse. L'enfant est habillé en garçon. Son visage, tu dirais fille ou garçon, est beau, quoi qu'il soit. 3 ans après ta 10e année, ton père, Iphis, te fiance avec Ianté, la blonde. L'amour touche le cœur dur des deux filles, y fait la même blessure, mais elles n'ont pas la même attente. L'une, Ianté, veut le mariage, le temps des flambeaux, et que cet homme qu'elle pense homme soit un homme. Iphis aime et désespère de jouir de l'amour. Cela même accroît sa flamme. Fille, elle brûle pour une fille. À peine si elle retient ses larmes.
Quelle sera l'issue ?
Dit-elle.
J'ai un souci que personne ne connaît, un souci prodigieux d'amour. Si les dieux voulaient m'épargner, ils devaient m'épargner. Sinon, s'ils voulaient me perdre, ils m'auraient donné un mal naturel, un mal habituel. L'amour de la vache ne brûle pas la vache. L'amour de la cheval. Chez les animaux, pas une femme pour être prise du désir d'une femme. Pousse ton courage, reprends-toi, fils. Lâche cet amour vide de sang, cet amour stupide. Regarde comme tu es né. Sauf si tu te trompes toi-même, demande ce que tu peux, aime en femme ce que tu dois. C'est l'espoir qui fait l'amour, l'espoir qui nourrit l'amour. À toi, le réel le retire. Ce n'est pas un gardien qui t'éloigne de ses chers baisers, ni le souci d'un mari jaloux. Ce n'est pas la dureté d'un père, et elle ne se refuse pas à ta demande. Pourtant, tu ne peux pas l'avoir. Même si tout se passe bien, tu ne peux pas être heureuse. Même si les dieux et les hommes y travaillent. Ce que je veux, ce que mon père, ce que la fille veut, et mon beau-père, la nature ne le veut pas. Et elle est plus puissante que tout. Elle est seule à me faire mal. Voici que vient le temps désiré. Le jour de la noce approche. Déjà, Yanté est à moi, mais elle n'est pas à moi. En pleine zone, nous mourrons de soif. Junon qui fait les noces, Hyménée, que venez-vous faire en ces fêtes sacrées où il n'y a pas d'époux, mais deux épousés?
Elle fait taire sa voix. L'autre fille n'est pas plus tranquille. Elle s'est chauffée pour que tu viennes vite, Hyménée, elle prie. Ce qu'elle veut, Télétus en a peur. Elle retarde le moment. Elle gagne du temps, dit qu'elle est malade. Elle trouve des prétextes, présages et rêves. Elle épuise toute la matière à histoire et le temps des flambeaux, souvent repoussés, est décidé. Il ne reste qu'un jour. Alors, elle détache la bandelette de la tête de sa fille, de la sienne, et embrasse l'autel, cheveux défaits.
Isis, donne-moi, je te prie,
dit-elle.
Donne-moi de l'aide, soulage ma peur. Toi, déesse, je t'ai vue autrefois, toi et tes signes. J'ai inscrit tes ordres dans mon esprit fidèle. Si celle-ci voit le jour, si moi je n'ai pas été punie, c'est ton idée, ton cadeau. Aie pitié de nous deux, apporte-moi ton aide.
Des larmes suivent les paroles.
On voit la déesse qui remue. Oui, elle a remué ses autels. Les portes du temple tremblent. Les cornes imitant la lune étincellent et crépitent le son du sistre.
Peu rassurée mais joyeuse du bon présage, la mère quitte le temple. Iphis la suit d'un pas plus long que d'habitude. La blancheur du visage disparaît. Les forces augmentent. Les traits sont plus durs. Les cheveux décoiffés plus courts. Car toi qui étais femme, tu es garçon. Le jour d'après, de ses rayons révèlent toute la terre. Quand Vénus, Junon et leur associé Hyménée se réunissent près des feux, le garçon Iphis prend femme Yanté.
Orphée et Eurydice.
Couvert d'un manteau safran, à travers l'air immense s'en va Hyménée et vers les rives des Siconiens avance. L'appel d'Orphée l'appelle en vain. Il est là, mais il n'apporte ni parole rituelle, ni visage joyeux, ni rien d'heureux. Sa torche qu'il tient siffle une fumée qui fait mal aux yeux, c'est tout. Il ne trouve pas le feu même en la remuant. La suite est pire que le présage. Pendant que la nouvelle mariée se promène sur les herbes avec la foule des naïades, elle meurt d'une dent de serpent reçue dans le talon. Après que le poète du Rhodope dans les ciels d'en haut l'a bien pleuré, il veut essayer les ombres et ose descendre au Styx par la porte de Taenaria. Après les peuples légers et les images passées au tombeau, il approche Perséphone et celui qui tient les royaumes répugnants, le maître des ombres. Il gratte les cordes pour le chant et dit
« Ô Dieu du monde posé sous terre, où l'on tombe quand on est mortel, si possible, sans imbroglio ni mensonge, laissez-moi dire vrai. Je ne suis pas descendu ici pour voir l'obscur Tartare, ni pour vaincre les trois gorges poilues de serpents du monstre fils de Méduse. La cause de mon voyage est ma femme, une vipère foulée aux pieds a répandu en elle son poison et lui a pris les années à venir. J'ai voulu le supporter, je ne dirai pas que je n'ai pas essayé. L'amour a vaincu, ce dieu est bien connu sur la rive d'en haut. L'est-il ici aussi? Je ne sais pas, je suppose qu'il l'est aussi. Si ce qu'on dit de l'ancien enlèvement n'est pas un mensonge, vous-même, l'amour vous unit. Moi, par ces lieux pleins d'effroi, par le chaos immense, par les silences du grand royaume, je vous en prie. Défaites le destin précipité d'Eurydice. Nous vous devons tout, et après un peu de temps, plus ou moins vite, nous nous précipitons au même séjour. Nous y avançons tous, c'est notre dernière maison, vous possédez le plus long royaume du genre humain. Elle aussi, à l'âge mûr, lorsqu'elle aura achevé ses justes années, elle sera sous votre loi, plus que le don, je réclame l'usage. Si les destins refusent le pardon à ma femme, sûr, je ne veux pas revenir. Réjouissez-vous alors de notre mort, à tous les deux.
Il dit et bouge les cordes sur les mots. Les esprits qui ont perdu le sang pleurent. Tantale ne cherche plus à retenir l'eau fugitive et la roue d'Ixion s'arrête. On raconte que pour la première fois vaincue par le poème, les Euménides mouillent leurs joues. La femme du roi ne veut rien refuser aux suppliants, celui qui règne en bas non plus. Ils appellent Eurydice. Elle était au milieu des ombres récentes. Elle marche d'un pas ralenti par sa blessure.
Orphée du Rhodope la reçoit. Avec elle, la loi de ne pas retourner ses yeux jusqu'à ce qu'ils sortent des vallées de l'Averne.
Sinon, le cadeau sera vain. Ils prennent un sentier grimpant dans les silences lourds, abrupts, obscurs, serrés de ténèbres épaisses. Ils ne sont pas loin du bord du dessus de la terre. Ici, de peur qu'elle lui manque, impatient de la voir, l'amant tourne les yeux aussitôt. Elle glisse en arrière, elle tend les bras, lutte pour être saisie, saisir n'attrape rien, la pauvre, que les airs qui échappent. Mourant une deuxième fois, de son époux, elle ne se plaint pas. De quoi se plaindre, si ce n'est d'être aimée? Mais dit un dernier adieu, qu'il peut à peine entendre. Elle roule au lieu où elle était avant.
Orphée supplie en vain. Il veut passer encore une fois. Le batelier l'écarte. 7 jours, il reste assis sur la rive, sale, sans don de Cérès. L'amour, la douleur de l'esprit, les larmes le nourrissent. Il se plaint. Les dieux de l'Érèbe sont cruels. Il se retrouve tout en haut du mont Rhodope et sur l'Aïmus, battu des vents.
Orphée fuit Vénus et toute femme, soit parce que les choses ont mal tourné pour lui, soit parce qu'il a donné sa foi. Beaucoup ont l'ardeur de s'unir au poète, beaucoup souffrent d'être repoussés. Chez les peuples thraces, il est l'auteur de ceci. Transférer l'amour sur de tendres garçons, cueillir l'avant de la jeunesse, le printemps bref, les premières fleurs.
Les chants d'Orphée, Pygmalion.
Pygmalion, offensé par les défauts que la nature a donnés à l'esprit des femmes, vit sans épouse, célibataire. Il évite de partager son lit. Avec un art étonnant, avec bonheur, il sculpte l'ivoire de neige. Il lui donne une beauté que nulle femme n'a. Il prend de l'amour pour son œuvre. Le visage est d'une vraie jeune fille. Tu croirais qu'elle vit, qu'elle veut bouger. Le respect l'en empêche. L'art se cache à force d'art. Pygmalion est émerveillé. Il puise dans son cœur des feux pour le corps imiter. Souvent, il approche ses mains de l'œuvre. Il touche. Est-ce un corps? Est-ce de l'ivoire? Il ne dit pas que c'est de l'ivoire. Il donne des baisers. Il pense qu'ils lui sont rendus. Il parle, serre, croit qu'il touche un corps, y appuie les doigts, craint qu'elle ait des bleus sur les membres qu'il presse. Une fois fait des caresses, une fois donne des cadeaux. Il orne son corps de vêtements, donne des bagues à ses doigts, donne de longs colliers à son cou, de légères perles à son oreille, des rubans à sa poitrine. Tout lui va. Nue, elle n'est pas moins belle. Il l'installe sur des couvertures, teinte du coquillage de Sidon, l'appelle compagne d'oreiller, place son cou incliné sur les doux coussins de plumes, comme si elle pouvait sentir. Le jour de fête de Vénus, très célébré à Chypre, arrive. Les encens fument, Pygmalion dépose son offrande, s'arrête devant l'autel, timide. Si vous pouvez, Dieu, tout donner, je veux que mon épouse soit. Il n'ose pas dire la fille d'ivoire. Pareil à la fille d'ivoire. Vénus d'or, présente à ses propres fêtes, comprend ce que signifie ce vœu. Présageant l'amitié de la déesse, la flamme s'allume trois fois, envoie sa pointe dans les airs. Il rentre chez lui, ferme le simulacre de la jeune fille, s'allonge sur l'oreiller, lui donne des baisers. On la croirait tiède. Il approche sa bouche, tâte de ses mains la poitrine. L'ivoire tâté, molli, abandonne sa dureté. L'amant stupéfié craint une fausse joie. Encore il prend dans sa main l'objet voulu, encore. C'est un corps. Sous le pouce, les veines tâtées palpitent. Le héros de Paphos prononce de riches paroles par lesquelles il remercie Vénus. De sa bouche, il presse une vraie bouche. La fille sent les baisers donnés. Elle rougit. À la lumière, lève son œil de lumière, timide, en même temps voit le ciel et l'amant. Aux noces qu'elle a faites, la déesse est présente. Lorsque 9 fois les cornes de la lune se sont assemblées en cercle plein, est née Paphos, fille de qui l'île a pris le nom.
Pélée et Thétis.
Le vieux Protée a dit à Thétis, déesse de l'onde, fais un bébé. Tu seras mère d'un garçon qui, dans ses années de courage, vaincra les actes de son père, qu'on dira plus grand que lui. Pour qu'il n'y ait au monde rien de plus grand que Jupiter, même s'il ne brûle pas de tiède feu, Jupiter fuit les noces de Thétis la marine. Il veut que le fils d'Éaque, son petit-fils, le replace dans ses désirs, qu'il tente des caresses à la Vierge de l'eau. Il y a un golfe en Aémonie, courbé en forme d'arc. Ses bras s'élancent. Si l'eau y était plus haute, ce serait un port. L'eau baigne le dessus du sable. Le rivage est ferme, ne garde pas de traces, ne retarde pas la marche, n'est pas couvert, l'algue n'y accroche pas. Au-dessous, il y a une forêt de myrtes, semée de baies bicolores. Il y a une grotte au milieu, faite par la nature ou par l'art, difficile à dire, plutôt par l'art, où souvent, assise sur un dauphin qu'elle dirige, Thétis, nue, vient. Un jour, ici, tu es couché, vaincu par le sommeil, Pélée te prend, et comme tu refuses ses prières, il prépare la violence, de ses deux bras, il serre ton cou. Sans ta technique habituelle de changer toujours de figure, il va réussir ce qu'il ose. Là, tu es un oiseau. Il tient un oiseau. Là, tu es un arbre, Pélé, tiens ferme à l'arbre. Ta troisième forme est celle d'une tigresse tachetée. Elle effraie le fils d'Éaque qui détache ses bras de ton corps. Il adore les dieux. Avec du vin versé sur les eaux de la mer, avec les entrailles des bêtes, avec la fumée de l'encens, du milieu de l'abîme, le devin de Carpathos lui dit « Fils d'Éaque, tu auras les noces que tu veux. Lorsqu'elle reposera endormie dans sa rude grotte, attache-la ignorante avec chaînes et liens serrés. Ne te laisse pas tromper, elle imite sans figure, mais serre quoi qu'elle soit, jusqu'à ce qu'elle redevienne ce qu'elle était. » Protée a dit. Il plonge son visage sous l'eau et reçoit sur ses dernières paroles les flots. Le titan, en avant, tient sous son char incliné la mer d'Hespérie quand la belle Néréide, quittant l'océan, entre dans sa couche habituelle. À peine Pélée a-t-il touché le corps de la Vierge qu'elle s'invente des formes jusqu'à ce qu'elle se sente tenue, bras écartés, d'un côté, de l'autre. Elle gémit. Tu n'as pas gagné sans la volonté d'un dieu. Elle se montre Tétis. Le héros l'embrasse, elle se révèle. Il réalise son désir, l'emplit de l'immense Achille.
L'histoire de Céix.
Céix se prépare à aller chez le dieu Claros. Avant ça, il te tient au courant de son projet, très fidèle Alcyone.
Aussitôt, jusqu'au plus secret de tes os, tu as froid. Pareil à celle du buis, la pâleur atteint ton visage. Tes joues se mouillent de larmes.
Quelle est ma faute, mon amour? Qu'est-ce qui a transformé ton cœur? Où est l'amour qu'à moi d'abord tu donnais? Peux-tu laisser Alcyone seule? Les flots me terrifient comme la triste image de l'océan. Sur le rivage, j'ai déjà vu des morceaux de planches brisées, et souvent sur les tombes, j'ai lu des noms sans corps. Lorsque les vents soufflants tiennent les flots, on ne peut les empêcher, toute la terre est à leur merci, et toute la mer, ils maltraitent même les nuages du ciel. Plus je les connais, plus je crois qu'il faut les craindre. Si ta décision ne peut être fléchie par aucune prière, mon amour, mon mari, si tu es sûr d'y aller, prends-moi avec toi. La mer nous ballottera tous deux. Ensemble nous porterons ce qui sera. Ensemble sur les flots larges nous serons portés.
Par les paroles et les larmes de la fille d'Éole, son époux, fils d'un astre, est ému. Le feu en lui n'est pas moindre. Il offre des consolations à son cœur inquiet.
Toute absence nous est longue, mais je te le jure, par les feux de mon père, si les destins le permettent, je reviendrai avant que la lune remplisse deux fois son disque.
Par cette promesse, il lui donne l'espoir du retour. Aussitôt, il ordonne qu'on sorte, mette à l'eau un bateau, qu'on l'arme d'équipement naval.
Horrifiée, elle laisse couler les larmes à peine nées, donne des baisers, la malheureuse. À la fin, d'une bouche triste, dit...
Au revoir.
De tout son corps s'effondre. Tant qu'elle peut, elle suit du regard le bateau qui fuit.
Le navire a traversé la moitié de la mer. Soudain, la mer, dans la nuit, blanchit sous les vagues, gonflée. Le Russe se précipite, plus puissant, souffle. La tempête grossit, force. Partout, les vents féroces portent la guerre, mêlent les eaux révoltées. Sous les vagues, la mer est dressée. On dirait qu'elle est au ciel. Le navire de Trachine est agité par les chaos. Les chevilles tombent et, privée de sa protection de cire, une fissure s'ouvre, montre le chemin aux eaux de la mort. Tombent des nuages crevés, les grosses pluies. Tu croirais que le ciel descend tout dans la mer, que dans les plages du ciel monte la mer gonflée. De l'eau tente d'envahir le bateau. De l'eau est déjà dedans. Les courages tombent, on le voit. Autant de vagues viennent, autant de morts. Ça rue, ça brusque. Celui-ci ne tient pas ses larmes. Celui-ci est stupéfié. Celui-là dit « Heureux les morts !» Celui-ci adore de prière une divinité, réclame de l'aide.
CX ne pense qu'à Alcyone. Dans la bouche de CX, il n'y a qu'Alcyone. Il ne veut qu'elle, se réjouit qu'elle ne soit pas là. Le mât est brisé sous le choc d'un tourbillon de pluie. Le gouvernail est brisé. Beaucoup d'hommes, pressés sous les gouffres lourds, ne reviennent pas à l'air. Ils ont achevé leur destin. Les autres tiennent des planches, des bouts de navire.
Lui, CX, de sa main qui portait le sceptre, tient des morceaux de bâton. Invoque son beau-père, son père, en vain, hélas. Plus que tout dans sa bouche, quand il nage, Alcyone, sa femme. Il se souvient d'elle, l'appelle.
Voici, du milieu des flots, s'élever un arc noir d'eau. Il se brise, rompu, la vague couvre sa tête, l'engloutit.
Pendant ce temps, la fille d'Éole, ignorant ses grands malheurs, compte les nuits, se promet de vains retours. À tous les dieux, elle porte de pieux encens, mais avant tout, honore les temples de Junon. Elle veut que son époux soit sauvé, qu'il revienne.
La déesse ne supporte pas plus longtemps qu'on la prie pour un mort. Iris, dit-elle, très fidèle messagère de mes paroles, va vite au palais endormi du songe. Ordonne-lui d'envoyer, avec l'image de CX mort, des songes qui racontent à Alcyone ce qui s'est passé.
Iris atteint la maison du roi, cachée sous un nuage. Elle accomplit sa mission. Le père des songes réveille l'adroit imitateur de la figure humaine, Morphée. Morphée s'envole. En un rien de temps, il arrive dans la ville d'Aemonie. Il ôte les ailes de son corps, prend le visage de CX, avec sa nouvelle figure, pâle, pareil à un mort, sans vêtements, se tient devant le lit de la pauvre femme. La barbe de l'homme est mouillée. L'eau ruisselle de ses cheveux lourds, trempés. Il dit
« Tes prières ne m'ont pas porté d'aide, Alcyone. Je suis mort. Cesse de m'attendre en un faux espoir. L'austère, plein de nuages, a saisi mon bateau dans la mer Égée. De son souffle immense, il l'a brisé. Ma bouche, criant ton nom en vain, les flots l'ont rempli. Ce n'est pas un témoin douteux qui te l'annonce. Moi, ici, en personne naufragé, devant toi, je produis ma mort. Lève-toi, bouge, offre tes larmes, mets une robe de deuil. Ne m'envoie pas sous le tartare vide sans me pleurer. »
Alcyone gémit, pleure, bouge ses bras, dans le sommeil, cherche le corps, embrasse l'air, s'écrie, reste. Où t'échappes-tu? Nous irons ensemble. Attirés par ses cris, les serviteurs ont apporté de la lumière. Et à sa nourrice qui lui demande la cause du chagrin,
« Il n'y a pas d'Alcyone, il n'y en a pas, » dit-elle. « Elle est morte avec son CX. Arrêtez de me consoler. Il est mort naufragé. Je l'ai vu pour mon malheur, pâle, nu. C'est ça, ça que je craignais, mon cœur devinait. J'aurais voulu, puisque tu partais pour mourir, que tu m'emmènes avec toi. Je ne suis pas là. Je suis morte et ballottée par les flots. Je ne me battrai pas, je ne te laisserai pas, mon malheureux. Je serai ta compagne, je viendrai à toi, dans le tombeau. Si tes os ne touchent pas mes os, mon nom touchera ton nom. »
Elle sort de chez elle, va sur le rivage, triste, cherche le lieu d'où elle l'a regardé partir. Longtemps, elle se rappelle leurs gestes marquants et regarde la mer. À grande distance, sur l'eau limpide, elle voit, je ne sais quoi, un corps, un naufragé, le mouvement des vagues approche le corps. C'est son époux.
C'est ainsi que tu me reviens, mon malheureux,
dit-elle. Sur les eaux, il y a une digue faite de mains d'hommes qui brise les premières colères de la mer, fatigue les assauts des vagues.
Elle y bondit. C'est un miracle qu'elle puisse le faire. Elle vole. Elle heurte l'air léger de ses ailes naissantes. Oiseau. Elle rase la malheureuse la surface des eaux. Pendant qu'elle vole, un son, sorte de cri triste, une plainte, sort de sa bouche qui claquette, de son bec fin.
Elle touche le corps muet, vide de sang, embrasse de ses ailes nouvelles les membres qu'elle aime, donne en vain des baisers froids de son bec dur.
CX le sent-il? Ou bien bouge-t-il le visage? à cause des mouvements de l'eau ?
On ne sait pas.
Il le sent. Et à la fin, car les dieux ont pitié, ils sont tous les deux changés en oiseaux. Soumis au même destin, leur amour s'est gardé.
I press her then gently, look long, wishing down. I press her then gently, look long, wishing down. And my passion makes silence, I make my love known. But oh, how I'm blessed when so kind she does prove. By some willing mistake to discover her love. When in striving to hide she reveals all her flame, and our hearts tell each other what neither dares name. When in striving to hide she reveals all her flame, and now I tell each other what neither dares name.
Vous venez d'entendre Les Métamorphoses d'Ovide, traduit du latin par Marie Cosma, adaptation de Pierre Costel. Enregistré dans la cour du Musée Calvet le 20 juillet 2018, avec les élèves comédiens de la promotion Jean-François Civadier de l'ENSAT, Sabrine Benjima, Lou Bernard Baille, Hélène Souka, Iris Pucciarelli, Camille Sex, Juliette Garbi-Verdier, Jules Benveniste, Pierre Bidard, Vincent Chappet, Julien Lopez, Marius Hull, Erwan Guinness. Accompagné à la guitare et à l'accordéon par Jules Benveniste et Erwan Guinness. Prise de son Pierrick Charles, Émilie Pott. Sonorisation Tanguy Le Cormier. Chargé de production Sandrine Bréchou. Maintenance Jean-François Georges et Alain Piet. Assistante à la réalisation Léa Racine. Réalisation Sophie Picon. Les Métamorphoses d'Ovide est publié aux éditions de L'Ogre. Remerciements aux régisseurs du Musée Calvet, Irène Sorel, Anne Bouchicot et Thierry Haller.
Vous écoutez France Culture et c'était la dernière émission de la série de lectures et de créations radiophoniques en direct du Musée Calvet au Festival d'Avignon. Demain, en public, donc ce n'est pas tout à fait la dernière, mais c'est la dernière en direct ce soir. Demain, en public, Tout Aristophane par Serge Valetti et Camille Chamou, où nous restons avec les grands anciens, Aristophane, mais revu, traduit, une grande entreprise de traduction aussi par Serge Valetti. Remerciements à toutes les équipes de Radio France et aux équipes du Festival d'Avignon. Remerciements au personnel du Musée Calvet, sa directrice qui nous accueille depuis le 11 juillet. Vous pouvez réécouter, podcaster sur franceculture.fr toutes les émissions diffusées pendant cette semaine du Festival d'Avignon. Je vous souhaite une très bonne soirée à Avignon, en attendant peut-être les orages qui menacent, le ciel est tout à fait instable, mais nous avons pu réussir à enregistrer en public, en direct d'Avignon. Nous en sommes très 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 heureux. Merci à tout le public. Revenez encore demain. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Très bonne soirée sur France Culture.
C'est l'été sur France Culture.